mortalité, on meurt de maladies et de causes qui ailleurs les personnes seraient sauvées, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, et vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre que j'aurais un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps. C'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, il va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays. Et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte, tiens, j'ai été formé à un moment donné ou un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale, et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la Fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. Après, on aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays.
Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes. Même, on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes. On voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant. Mais du coup, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court. Parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors que un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora, qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs qui aient beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité. Je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Il faut que les deux marchent main dans la main. Il faut qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous?
En menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc, ça, c'était important au aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
C'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur l'imagerie médicale, un pilier de la santé mondiale. Deux femmes sud-africaines brisent le plafond de verre dans la médecine nucléaire. Ensuite, une organisation caritative américaine œuvre pour impacter la santé publique au Kenya à travers la formation. Enfin, un nouveau vaccin contre le choléra donne de nouveaux espoirs dans la lutte mondiale contre la maladie. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'imagerie médicale joue un rôle crucial dans le domaine médical. La radiologie, l'échographie et la tomographie par ordinateur sont certaines technologies qui permettent de diagnostiquer les maladies, suivre leur évolution, mais aussi mieux les soigner. Selon l'OMS, près de 2/3 de la population mondiale n'ont pas accès à la technologie d'imagerie de base, notamment due au manque de personnel formé. La médecine nucléaire est une spécialité dans l'imagerie médicale qui utilise de faibles quantités de substances radioactives pour diagnostiquer et traiter diverses maladies. Deux médecins sud-africains, deux femmes, en ont fait leur cheval de bataille. Tuso Kumalo leur a rendu visite. Voici son reportage relaté par Dili Diko.
Tôt le matin, le docteur Mokwala est déjà à l'œuvre dans le service de jour de la section de médecine nucléaire de l'hôpital académique Steve Biko. Elle se prépare à examiner et traiter un patient atteint d'un cancer de la peau sans mélanome. Elle est l'un des 100 médecins nucléaires qui desservent les 60 millions d'habitants que compte l'Afrique du Sud.
La médecine nucléaire est un domaine en constante évolution. Il faut donc constamment se tenir au courant des derniers développements. Il faut beaucoup lire.
Il s'agit d'une discipline d'études relativement nouvelle et elle a réussi à obtenir une licence en médecine et en chirurgie, un titre de membre du Collège des médecins nucléaires, un master en médecine nucléaire et un doctorat en philosophie de la médecine nucléaire.
Nous sommes en fait l'un des premiers centres au monde à pratiquer la thérapie du cancer de la prostate à l'actinium 225. C'est grâce à notre mentor et à notre chef de département, le professeur Satégué, que nous sommes aujourd'hui l'un des premiers centres au monde à pratiquer ce type de thérapie.
En tant que chef de l'unité clinique, le docteur Mokwala supervise au quotidien d'autres médecins qui font également leurs preuves dans le domaine de la médecine nucléaire.
Dans cette salle, les patients envoyés par différents médecins pour diverses pathologies sont scannés et les technologues en radiation médicale sont généralement responsables du scannage dans cette salle. Ils placent le patient sur le lit et se tiennent derrière la vitre de la porte et laissent le patient s'allonger et être scanné, parfois pendant une période de 5 minutes, parfois pendant une heure.
Les images sont transmises dans la salle de la gamma caméra où le docteur Mokwala et d'autres médecins nucléaires les analysent.
La façon dont nous réalisons nos images consiste donc à injecter un composé radioactif dans le corps. Celui-ci suit alors un certain processus physiologique en fonction de ce que l'on veut imager à ce moment-là.
À ce stade, il est essentiel qu'ils examinent très attentivement les images pour s'assurer que toutes les anomalies sont signalées.
Et maintenant, ce que nous faisons, c'est de la TEP-TDM ou tomodensitométrie. Elle est généralement généralement demandée par les médecins pour les patients qui ont un cancer. Nous les rapportons donc et cela aide les médecins à savoir si le patient a besoin d'un traitement systémique ou d'un traitement local. Et nous devons également voir si le traitement fonctionne ou non, de sorte que les résultats de nos scanners leur permettent de mieux s'occuper du patient.
En tant que présidente de la Société sud-africaine de médecine nucléaire, le docteur Mokwala et son équipe ont été invités par l'Organisation scientifique et médicale internationale, la Société de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire, à participer à sa réunion de juin à Toronto au Canada, en reconnaissance des progrès considérables qu'il réalise dans le domaine de la médecine nucléaire.
Quels défis avez-vous pu relever concernant l'accès aux services d'imagerie médicale dans votre communauté? Par ailleurs, vous êtes-vous déjà inquiété de la sécurité de la radiologie et d'autres techniques d'imagerie médicale? Voici quelques réactions du Nigeria.
Pour beaucoup d'entre nous qui vivons dans les zones reculées, il est un peu difficile d'accéder à l'imagerie médicale. Il nous faut parcourir des kilomètres avant d'être orienté vers les régions qui y ont accès. Et même dans les régions dotées des services médicaux, la radiographie de base est relativement accessible pour certains, alors que pour d'autres, en particulier les personnes atteintes d'un cancer qui est très répandu dans nos régions et dans d'autres endroits qui ont besoin de soins avancés, c'est un véritable défi.
Je pense que c'est très très difficile parfois parce que beaucoup de gens ont peur d'aller à cause du manque d'informations à ce sujet. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens craignent de faire des radiographies.
Le principal défi est donc le financement et la disponibilité des équipements. C'est toujours un inconvénient pour certaines personnes lorsque les médecins recommandent de faire une radiographie, mais elles se retiennent parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire.
Dans le domaine de l'imagerie médicale, nous avons ce que nous appelons l'accessibilité et ce que nous appelons les soins de normalisation. Il y a donc deux grandes différences entre une communauté rurale et une communauté urbaine. Ainsi, dans une communauté urbaine, il est facile d'accéder à l'imagerie médicale, contrairement à ce qui se passe dans une communauté rurale.
Tout le monde demande toujours parce qu'il y a une peur établie ou préexistante à cause du manque de connaissances dans ce domaine, ou du manque de sensibilisation. Vous savez, je pense que si nous faisons plus de sensibilisation, les gens sauront que si certaines personnes meurent de maladies qui auraient pu être détectées, c'est parce qu'ils se retiennent à cause de l'ignorance. Donc la peur est là, je l'ai fait parfois. Si les médecins le recommandent, il faut le faire.
Le docteur Stephen Ojwang est le PDG du groupe Primary Care Hospital à Nairobi, au Kenya. Il discute de l'importance de l'imagerie médicale et de l'accès en Afrique.
Il existe plusieurs formes d'imagerie médicale. Il y a celles qui choisissent une technologie appelée radiation ionisante qui comprend les rayons X ou les rayons gamma, comme on le voit dans les scanners de médecine nucléaire. Il y a aussi d'autres méthodes qui utilisent des radiations non ionisantes, comme l'IRM ou l'échographie, qui utilisent des ondes sonores à haute fréquence. Nous avons aussi d'autres méthodes d'imagerie qui dépendent de l'état du patient à ce moment-là. Mais la règle générale veut que l'on commence par la plus simple, puis on progresse. Par exemple, un patient qui tousse et souffre d'infection pulmonaire, la radiographie s'est avérée très utile pendant de nombreuses années au cas où son état persisterait et où nous aurions besoin d'un examen plus approfondi. Nous passerons à la tomodensitométrie, par exemple, parce que l'échographie ne peut pas donner de très bonnes images, parce qu'elle ne traverse pas l'air de manière optimale, de même pour l'IRM, parce que le cœur est en mouvement et les poumons sont en mouvement, le patient respire. L'IRM ne peut être pas la meilleure technique. En revanche, si nous avons besoin d'un peu plus de détails, disons que nous voulons évaluer un patient atteint d'un cancer de la prostate, par exemple, l'IRM serait alors très utile pour réaliser ce que nous appelons une radiographie locale. Mais le scanner serait préférable en cas d'urgence si le patient est victime d'un accident vasculaire cérébral ou d'une hémorragie cérébrale, car il est très rapide, il prend moins d'une minute à réaliser, alors que l'IRM prendrait probablement 15 minutes ou même plus. L'impact des soins de santé et la disponibilité de l'imagerie médicale, c'est très important, car pour tout professionnel de la santé, le diagnostic de la maladie est le plus important. En effet, une fois que vous avez été en mesure d'identifier ce dont souffre le patient, quel est son problème principal, vous pouvez alors lui fournir le traitement adéquat. Il est évident que certaines personnes hésitent à utiliser l'imagerie médicale. Et c'est à nous, professionnels de la santé, de nous assurer que nous protégeons nos patients. Par exemple, pour les femmes enceintes, nous ne devrions pas les exposer à des radiations inutiles, en particulier au cours du premier trimestre. Il est donc très important de savoir comment traiter la patiente si elle est enceinte, car cela peut présenter un risque pour le développement du bébé. Toutefois, cela ne signifie pas qu'une mère enceinte ne peut pas passer de radiographie. L'autre élément qui fait hésiter les gens, c'est l'IRM. Donc oui, il y a certainement des zones d'hésitation. Mais ce qui est bien, c'est qu'un diagnostic précis peut vous sauver la vie. Et un diagnostic précis vous permettra de vivre demain et être là pour vos enfants et votre famille.
Selon les experts, le manque de formation est un défi majeur dans le domaine de la santé, dans les pays dits sous-développés. Pour pallier ce problème, une organisation caritative américaine appelée Mission to Heal forme des travailleurs locaux au Kenya pour aider les patients dans des endroits reculés. Reportage Juma Majanga depuis le village de Ungurunit dans le nord du Kenya. Récit John Linden.
Le centre de santé de Ngurunit, situé dans un village isolé au comté aride de Marsabit, dans le nord du Kenya, est en pleine effervescence. Les habitants se sont rassemblés ici, certains ayant parcouru des dizaines de kilomètres pour obtenir des services médicaux. L'organisation caritative américaine Mission to Heal a fourni des équipements médicaux plus perfectionnés et forme les travailleurs médicaux locaux à leur utilisation.
Prendre soin des gens dans leur environnement culturel et familial est quelque chose qui va se faire ici. Nous prenons donc les experts qui vivent ici et nous les faisons venir pour leur montrer comment nous pouvons faire les choses.
Le fondateur de Mission to Heal, le Dr Glenn Jill Hood, explique que son objectif est de donner aux soignants locaux les connaissances et les compétences nécessaires pour améliorer les services médicaux dans des endroits aussi reculés que celui-ci.
Ils m'ont même appris à gérer de nouvelles conditions ici et là que je ne connaissais pas auparavant. Et ils m'ont même équipé de nouveaux matériels.
Un rapport publié en 2019 par l'Institut national de la santé des États-Unis révèle que le manque de formation du personnel constitue un problème majeur pour les soins de santé en Afrique. Kristen Alcorn, une bénévole, affirme que Mission to Heal peut aider.
They have the knowledge, but their resources are limited, and so I think that we can help them.
Ils ont les connaissances, mais les ressources sont limitées. Je pense donc que nous pouvons les aider à gérer au mieux les choses et à établir des diagnostics et les meilleurs traitements possibles avec leurs ressources limitées.
Sinaheya Kalahele a parcouru plus de 30 kilomètres pour se faire soigner.
Je suis arrivée ici avec beaucoup de douleurs, surtout au niveau de l'abdomen. Les médecins m'ont examiné, m'ont fait deux injections et m'ont donné des médicaments. Et maintenant, je me sens mieux. La douleur a diminué.
Les étudiants en médecine volontaire disent qu'ils apprennent aussi.
Il est évident que la culture et les ressources sont très différentes. Cela a donc été une courbe d'apprentissage abrupte pour comprendre ce que nous pouvons faire et ce que nous devrions faire.
Selon le programme des Nations Unies pour le développement, quelque 408 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès aux soins de santé. Mission to Heal affirme avoir formé 3200 travailleurs de la santé sur le continent.
L'OMS a approuvé une version simplifiée d'un vaccin oral contre le choléra. Le vaccin Uvicol S est une formulation simplifiée d'Uvicol Plus avec moins de composants, ce qui devrait permettre de produire plus rapidement des volumes plus importants, a indiqué l'OMS. Il est produit par le groupe sud-coréen U-Biologics, dont l'OMS a déjà approuvé les vaccins Uvicol et Uvicol Plus. Pour l'organisation, le nouveau vaccin a un taux d'efficacité similaire aux formulations plus complexes. Par ailleurs, trois autres pays africains ont rejoint le déploiement de vaccins antipaludiques ciblant des millions d'enfants en Afrique, le continent qui représente 95% des décès dus au paludisme, selon les Nations Unies.
C'est ici que prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.